RMC Intégral Tour.
Tu te mets sur le vélo, voilà, tu te mets bien droit, voilà.
Christophe Cessieux.
Et tu poses j'attaque le col, ok?
C'est la 13e étape du Tour de France aujourd'hui en direction de Rodez sous une chaleur accablante, plus de 35 degrés sur les routes du Tour, pas un brin d'air et des conditions vraiment difficiles. On va retourner sur la moto RMC dans quelques instants, mais auparavant Fred, on va faire un point sur la course parce qu'il semble se passer des choses. Oh là là, avec
ouais, une chute. Ouais. Chute dans le peloton. On va essayer de voir.
G2R.
C'est Jean-Christophe Perrault, me semble-t-il. Jean-Christophe Perrault, alors que des bordures sont en train de se former à 65 km de l'arrivée. Toujours 6 hommes en tête qui voient revenir à vitesse grand V un peloton lancé en éventail, plusieurs éventails. Le peloton scindé en deux parties. Et bien voilà, quand on s'affole et qu'on essaye de rester dans l'abri alors que des bordures se forment, eh bien on risque de toucher des roues. C'est exactement ce qui est arrivé à Jean-Christophe Perrault qui vit décidément un Tour de France 2015 galère, lui qui avait terminé deuxième derrière Nibali l'an passé sur le podium. 3 minutes 30 d'avance pour les 6 hommes de tête où l'on trouve 3 Français, on le rappelle, Cyril Gauthier, Alexandre Géniez et Pierre-Luc Périchon.
Franchement Cyril, quand on est dans la situation de Jean-Christophe Perrault, deuxième du Tour l'an dernier, mais largué depuis le début dans les étapes des Pyrénées et qu'on chute comme ça, on doit vraiment se demander ce qu'on fait là et on doit vraiment se demander pourquoi je ne rentrerai pas à la maison là.
Hein. Voilà, c'est une image dramatique. En plus, il doit toucher une roue puisqu'il tombe tout seul. Heureusement, il emmène personne. Ce qui veut dire qu'il est pas dedans. Il est pas dans la course. Vous savez, quand on est bien. C'est quand même assez rare que l'on va par terre, mais malheureusement c'est pas son tour. Je sais pas si je pense qu'il va repartir. Oh là, il est bien.
Ouais, le cuissard est ouvert pour vous décrire ça. Le cuissard est ouvert sur le côté gauche. On lui voit la hanche, le coude gauche est salement amoché. Il est en train de se faire soigner par la doctoresse du Tour de France, Jean-Christophe Perrault, qui ce matin pointait dans les etc du classement général, vraiment très loin. Lui qui a fait quasiment groupetto hier. Vous parliez de ce Tour de France galère, de la situation dans laquelle. Il est psychiquement et physiquement maintenant, puisque bien amoché. Il m'est revenu.
Il est complètement ouvert sur le côté.
Il m'est revenu récemment à l'esprit une discussion que j'avais eue avec lui alors qu'il recevait le prix du meilleur coureur français décerné par Vélo Magazine, nos confrères de Vélo Magazine, le Vélo d'or français. Jean-Christophe Perrault qui me disait à l'époque c'était off, il ne voulait pas que je l'écrive dans l'article que j'étais censé produire dans la foulée. Jean-Christophe Perrault qui me déclarait c'était fin octobre, il me disait, tu sais, après ce que j'ai fait sur le Tour l'an passé, deuxième, j'ai pas envie d'y aller sur le Tour en 2015, je ferai jamais aussi bien et tous les regards seront tournés vers moi. Ce que j'aimerais faire, vu le Giro qui se présente en 2015, c'est aller au Giro, mais va expliquer ça à l'avenue, va expliquer ça aux sponsors, je serai sur le Tour, mais je préférerais être sur le Giro.
Ouais, oui. Jean-Christophe Perrault, Georges Quirino a quelque chose à nous dire, Georges, sur l'état d'esprit de Jean-Christophe ces derniers jours.
Oui, où il nous a beaucoup parlé de la chaleur, Jean-Christophe Perrault. Ça fait deux jours que pour expliquer ses défaillances, il nous parlait de cette chaleur pesante qu'il a du mal à affronter. Et quand on voit le thermomètre là, tout à l'heure, Christophe, on a touché les 40 degrés, hein, les 40 degrés sur la route du Tour. Il y a le goudron qui fondait même un peu là, alors qu'on traverse Valence d'Albigeois. Mais Jean-Christophe Perrault qui disait encore hier soir sur son compte Twitter, demain, faudrait pas qu'il fasse encore chaud comme ça. Il craignait beaucoup cette journée. Peut-être que la tête ne suit pas et avec la chaleur ça n'aide pas le deuxième du dernier tour.
Cyril, est-ce qu'il n'est pas temps de rentrer à la maison pour Jean-Christophe? Il a plus rien à espérer sur ce Tour de France, mais évidemment vis-à-vis des sponsors, vis-à-vis de son équipe, c'est difficile, on quitte pas le tour comme ça, surtout quand on a été sur le podium l'année précédente.
Oh, on n'est plus dans cette démarche en ce moment. Plus la chute là qu'il vient de subir, il n'est plus dans le coup au classement général. Est-ce que vous croyez que pour les sponsors, le voir traîner sa misère, c'est bien? Non, je pense que... c'est pas à moi de prendre la décision, mais personnellement, si le coureur souhaitait arrêter, je l'encouragerai.
Oui, parce qu'il y a une Vuelta à faire aussi pour AG2R La Mondiale, qui fait partie du World Tour, équipe sélectionnée d'office pour participer au Tour d'Espagne. Cyril, il y a presque une consigne à donner à Jean-Christophe Perrault, qui peut virer au soulagement aussi pour le coureur. Arrête tout de suite, comme un coach de boxe qui jetterait l'éponge.
Oui, non, il faut jeter l'éponge.
Il faut jeter l'éponge pour
Jean-Christophe Perrault. Mais bon, je n'ai pas... Moi personnellement, je pense que j'irai dans ce sens-là, mais il y a une autre façon de le faire, c'est d'arriver à faire en sorte que c'est lui qui prenne la décision. Mais on peut lui la faire sentir. Là, écoutez, il a une main qui est complètement abîmée, il a tout le bras qui est arraché, la hanche. Il fait chaud. Et cette nuit, il va dormir comment? Enfin, non. Là, il est dans une situation vraiment, vraiment, vraiment dramatique. Et c'est vrai que la logique, le bon sens voudrait que il aille se changer les idées, d'abord se réparer, se changer les idées, et peut-être que, comme tu l'as souligné, aller préparer le Tour d'Espagne.
Alors, Perrault était deuxième l'an dernier, il vit un tour catastrophique. Celui qui l'avait précédé et qui était sur le podium sur la plus haute marche, c'est Nibali. Nibali, lui aussi, connaît quand même pas mal de soucis depuis le début du tour. Là, c'est moins grave que pour Jean-Christophe Perrault, mais ça lui arrivait pas l'an dernier de crever comme ça aussi régulièrement.
Oui, crevaison à l'instant, à 60 km de l'arrivée pour Vincenzo Nibali à Valence d'Albigeois. Nibali qui était 9e au général ce matin à 7:47 de Christopher Froome. On vous disait que le peloton s'était scindé en plusieurs groupes sous l'impulsion des Tinkoff notamment, qui roulent pour Peter Sagan aujourd'hui. Et bien Vincenzo Nibali, à cause de cette crevaison, est dans un deuxième groupe attardé à 30 secondes du groupe maillot jaune. Heureusement pour lui, deux équipiers de sa formation Astana ont attendu, en l'occurrence Liu Vestra et Tanel Kangert, l'Estonien. Ils vont devoir tirer de longs bouts droits pour espérer ramener Vincenzo Nibali dans le premier peloton.
J'ai envie de dire que le podium de l'an dernier vit un Tour de France absolument incroyable.
Ouais, même si pour Thibaut Pinot ça va un tout petit peu mieux, puisqu'on l'a vu à l'attaque hier, en tous les cas pas à l'attaque mais dans le groupe maillot jaune, il a terminé 12e de l'étape, mais les conditions climatiques étaient meilleures pour lui hier. À nouveau la chaleur, lui aussi dit craindre énormément la chaleur et explique ses contre-performances par la chaleur accablante qu'il fait sur les routes du Tour.
Dans le cyclisme comme dans la vie, la roue tourne, c'est clair.
Lucho, un petit mot concernant Jean-Christophe Perrault. Tu te mets dans la peau, dans la tête du...
Moi, je suis de l'avis de Cyril. Hein, il n'y a pas grand-chose à faire maintenant. Je crois que de continuer le tour à galérer comme il est en train de le galérer aujourd'hui, surtout qu'il reste quand même beaucoup, beaucoup d'étapes avant l'arrivée finale sur les Champs-Élysées, je crois qu'il serait bénéfique pour Jean-Christophe Perrault de rentrer à la maison, de se refaire une petite santé, de se concentrer sur la fin de saison et notamment peut-être de faire la Vuelta dans de meilleures conditions qu'il a fait sur le Tour de France, parce que là, franchement, c'est une galère pour rien.
Alors, à noter qu'aucun de ces équipier ne l'attend, et même si là il est accoudé à la voiture médicale.
C'est normal.
Oui, Jean-Christophe. Il est 30e du général à plus de 40 minutes de Christopher Froome. Il ne joue plus le général. Il a mal. La situation est très inconfortable pour Jean-Christophe Perrault à l'arrière du peloton. Il est en train de se faire bander le coude gauche qui est vraiment salement amoché. Sa hanche est touchée et il est dans une situation d'autant plus inconfortable que son cuissard s'est déchiré. Ne riez pas messieurs, mais il a les parties intimes à l'air, Jean-Christophe Perrault. Ça non plus, ça n'encourage pas à terminer l'étape.
Oui, alors je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas attendre. Parce que lorsque vous avez une chute, il faut que les coureurs restent attentifs à ce qui s'est passé dans la chute. Imaginez que vous décrochiez deux ou trois coureurs tout de suite et que dans 2 km ou dans 10 km il abandonne. Vous avez trois coureurs dans la pampa et après il faut rentrer avec les délais. Donc il faut attendre de savoir si le coureur effectivement a les moyens. À les moyens de rentrer, et à ce moment-là, il est toujours temps de décrocher. Mais quand vous avez décroché des coureurs et que votre coureur abandonne, vous avez tout le monde dans la pampa.
Très bien, on va retourner sur la moto RMC avec Georges Quirino qui lui se trouve à l'avant de la course avec les échappés. Georges, on continue de bien s'entendre dans ce groupe d'échappés.
On continue de bien s'entendre et surtout à subir la chaleur, 39 degrés sur cette route actuellement. Tiens, on va peut-être essayer de se rapprocher de la voiture Europcar de Andy Flickinger. J'ai bien joué ça, Marco, d'être approché comme ça à ce moment-là. Tiens, Andy qui est avec nous, qui suit Cyril Gauthier dans cette échappée. Bonjour Andy.
Bonjour.
40 degrés aujourd'hui, c'est une journée en enfer là pour reprendre le titre d'un film pour les coureurs.
Ouais, c'est clair, là aujourd'hui c'est vraiment une journée galère, on le savait. Bon, ça va être compliqué à gérer, je pense que tout le monde a les jambes lourdes.
Ouais, Cyril Gauthier est dans l'échappée, il a souvent été dans des coups comme ça sur le tour. Est-ce que ça peut lui sourire là aujourd'hui à Rodez, tu penses?
Il y a pas mal d'équipes qui ont l'air motivées derrière. Giant n'a jamais laissé plus de 4 minutes, 4-20 au maximum, donc ça va être compliqué. Mais bon, pourquoi pas, faut voir, il est avec des bons bisons devant, donc on va voir ce que ça donne. Mais 3 minutes 10, ça me paraît un petit peu court pour aller au bout.
Un mot sur l'équipe Europcar, juste Andy. On a vu Pierre Roland arriver avec les meilleurs hier. Qu'est-ce que vous avez en tête à l'approche des Alpes également pour lui?
Écoutez, là, il y a pas mal d'étapes qui nous conviennent. On a commencé le tour difficilement avec des étapes ventées où on n'était pas très à l'aise. On espère pouvoir remporter une étape et pourquoi pas faire une belle remontée au classement général. Voilà.
Super, merci beaucoup Andy Flickinger, directeur sportif de la formation Europcar qui suit Cyril Gauthier dans cette échappée. Tiens, juste une image aussi dans ce groupe de tête, Christophe, on a vu Nathan Haas, l'Australien, l'équipe Cannondale Garmin il y a quelques instants, comme beaucoup de membres de l'échappée, prendre un bidon et se le vider entièrement sur la tête. Si vous êtes sur le bord de la route, je pense qu'aujourd'hui il va y avoir beaucoup de bidons à récupérer de la part des coureurs.
Merci Georges. Alors qu'à l'arrière le calvaire de Jean-Christophe Perrault se poursuit, Fred, oui. Il est en train de se faire bander le bras par les médecins du Tour, accroché à la voiture médicale.
La momie Jean-Christophe Perrault dans quelques instants. Coup de gauche bandé, coup de droit bandé. Est-ce qu'on va aller s'occuper de sa hanche maintenant? Vraiment une situation inconfortable à beaucoup de sens du terme, dans beaucoup de sens du terme, pour Jean-Christophe Perrault qui a son cuissard déchiré jusqu'au centre, côté recto, si vous voyez ce que je veux dire. Ce sont les affres du métier de coureur cycliste. Et là, Jean-Christophe Perrault est en galère. Il est désormais relégué à plus de 4 minutes du peloton. Non, un peu moins, 2 minutes du peloton. Sachez que Vincenzo Nibali, qui a crevé tout à l'heure, est lui à 1 minute du peloton maillot jaune.
Très bien. On va aller faire un petit tour à Londres, le Queen's, pour le quart de finale de Coupe Davis entre la France et la Grande-Bretagne. On vous rappelle qu'il y a quelques minutes, Gilles Simon a décroché le premier point pour l'équipe de France en ne faisant qu'une bouchée de Ward. Désormais deuxième match entre Joe Wilfried Tsonga et un certain Andy Murray. Eric Salio est dans la place.
Oui Christophe, c'est parti depuis 16 minutes exactement sur le gazon du Queens. Et pour l'instant, il y a deux jeux partout entre les deux joueurs, mais on a tout de suite senti la différence. Les frappes sont beaucoup plus puissantes. On a même vu Joe lâcher un quasi-ace à plus de 220 km/h. Donc c'est du costaud. Joe a... il n'a rien à perdre, hein. Le contexte est favorable. Gilles a apporté le premier point au bleu. Il faut essayer de bouger Andy Murray. C'est un cours sur lequel ils se sont déjà joués à deux reprises. En finale du Queen's en 2011, Murray s'était imposé 3-6, 7-6, 6-4. Et puis, il s'était joué aussi en demi en 2013. Là encore, ça avait fait 3-7. Donc, vous voyez, Joe a des armes pour inquiéter Andy Murray. De partout, 17 minutes de jeu ici au Queen's.
Merci Eric. Évidemment, ce quart de finale, nous le suivons jusqu'à dimanche en espérant que la France se qualifie pour les demi-finales face au Kazakhstan ou face à l'Australie. Le Kazakhstan qui a pris un meilleur départ. Tiens, on l'a retrouvé sur la route vers Rodez.
C'est où, Dédé?
Dédé qui retrouve des couleurs, évidemment, parce que lorsqu'il fait chaud, son gros Léon est en œuvre, est à l'action.
Eh oui.
Il va arroser les routes réchauffées, très, 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 très chaudes, même, on peut le dire. Alors, est-ce que ça a reçu, mon cher Dédé, aujourd'hui?
Oh oui, ça a reçu. On est en train de battre des records. Tout à l'heure, on était en effet aux alentours de 40 degrés en l'air. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la température en l'air, mais celle du sol. Et celle du sol, elle est passée à la limite des 61 degrés. Avec mes capteurs, j'ai enregistré 60,9 degrés après Ambialet. Donc, on n'est pas loin du record de 63 degrés qui date de quelques années quand on était aux Rousses. Donc, c'est bon pour nous, mais évidemment, c'est très, très dur pour la course. Et c'est également dur pour Léon, qui est obligé de recharger ses citernes. On est arrivé là à peu près à 6 tonnes d'eau aujourd'hui. Donc trois recharges, celle de ce matin où il est parti à plein, et il a rechargé déjà deux fois pour arroser des plaques de reçuage qui sont heureusement soit sur du plat, soit sur de la montée, donc moins difficile à passer pour les coureurs.
Mmh. Très bien, donc si vous avez un peu d'eau, n'hésitez pas, le gros Léon a soif aujourd'hui, vous pouvez remplir sa réserve, il en fera bon usage et pour arroser la route. Hein. Merci André, à tout à l'heure, prends pas chaud, hein. Prends pas un coup de chaud, on sait jamais, mets la clim à fond aujourd'hui. À plus tard, André Bocal, de l'Assemblée des départements de France. Fred, on fait un point sur la course à 52 km de l'arrivée, le top course.
RMC, top course.
La course en direction de Rodez sur les routes surchauffées de l'Aveyron, 52 km avant l'arrivée, toujours 6 hommes en tête, dont 3 Français, Cyril Gauthier, le Breton, Alexandre Geniez, l'Aveyronais natif de Rodez, Pierre-Luc Perrichon, le Bressan de l'équipe bretonne séchée, et puis le Hollandais Wilco Kelderman, le Belge Thomas De Gendt et un Australien Nathan Haas, dernier pointage. 3 minutes 30 d'avance pour ces 6 hommes de tête sur un peloton où Vincenzo Nibali, qui était attardé sur crevaison tout à l'heure, vient de se repositionner. Il n'y a plus qu'un peloton. Le seul attardé en ce moment s'appelle Jean-Christophe Perrault, victime d'une lourde chute il y a quelques kilomètres et qui est toujours aux côtés de la voiture médicale. Il est relégué à plus d'une minute 30 du groupe maillot jaune, du peloton principal. J'ai l'impression que certains de ces équipiers vont commencer à l'attendre, des équipiers qui n'ont plus de leader pour le classement général, puisque ni Perrault ni Bardet ne sont concernés pour la lutte pour le podium. Jean-Christophe Perrault qui va vivre, c'est sûr, une fin d'étape galère, 51 km de l'arrivée. Jean-Christophe Perrault qui n'était pas loin de chez lui ce matin au départ, lui qui est toulousain d'origine, installé désormais à Lyon, l'ancien ingénieur.
Merci Fred. 16h22 sur RMC, on s'interrompt quelques instants, on va boire quelques petits verres d'eau et on revient sur la route du tour.
On ne mange rien, on s'hydrate et on mange rien, les gars.
On mange rien.
Non,
rien du tout.
Aujourd'hui, c'est alimentation liquide.
Même Lucho, la Lucho mobile est en panne aujourd'hui. Hein. Rien ne va plus sur la route du tour. Heureusement, il nous reste quelques bons petits saucissons. On va en parler dans un instant parce que pour Cochonou, c'est pas un tour de tout repos. On en parle juste après la petite pause. Carré, restez avec nous. On est là. Vous êtes bien. Vous faites la sieste tranquille, à l'ombre, avec le ventilo et en plus. RMC dans les oreilles, l'intégral tour. À tout de suite.
RMC, intégral tour. Christophe Cessieux.
La 13e étape du Tour de France aujourd'hui, étape très difficile pour les coureurs au lendemain de 3 étapes pyrénéennes. Aujourd'hui, c'est la chaleur accablante qui s'abat sur le peloton et en plus des chutes pour certains, dont le dauphin de Nibali l'an dernier sur les Champs-Élysées, Jean-Christophe Perrault, retardé après une chute où il s'est bien abîmé. Jean-Christophe Perrault qui malgré tout parvient à revenir à l'arrière du peloton. Il faut dire qu'il a été aidé un peu par la voiture médicale et par son directeur sportif. Est-ce qu'on a le droit de faire ça, Cyril? Je voudrais avoir ton avis évidemment pour Jean-Christophe, on n'a qu'une envie, c'est qu'il puisse réintégrer l'arrière du peloton. Mais il y a des règlements qui sont peut-être bousculés. Je ne sais pas comment dire.
Non, logiquement, c'est interdit par le règlement. Dans certaines circonstances, disons qu'on va adapter le règlement. Voilà. Et qu'il était à 2 minutes tout à l'heure. Bon, il s'est fait soigner. Et pendant qu'il se faisait soigner, je pense que le chauffeur du médecin montait un petit peu la vitesse pour lui permettre de rentrer.
Il y a des tolérances pour les garçons qui sont abîmés les grands messieurs du vélo dont Perrault fait partie.
Pas les grands messieurs. Les coureurs.
Deuxième du Tour de France, c'est.
Oui, non, ce que ça veut dire. Mais même un petit coureur, c'est pas. Ouais. C'est quand il y a un coureur qui est abîmé. Le médecin, il soigne pas mieux que celui qui est 75e au classement général.
On a vu par exemple l'autre jour à l'issue de la grosse chute que le directeur du Tour avait décidé d'arrêter la course, donc en faisant l'albatros comme ça, Christian Prudhomme. Là, il n'y a pas eu d'albatros, mais on permet à Jean-Christophe Perrault de revenir à la
personne.
C'est toléré et
personne ne portera plainte.
Exactement, surtout pas nous. Très bien. La moto RMC, Georges Quirino avec les échappés qui comptent 3 minutes d'avance, un peu plus de 3 minutes. Georges.
Exactement, il fait toujours 40 degrés là dans la traversée de Requista. On est rentré dans l'Aveyron depuis quelques kilomètres. Voilà, la chaussée est un peu fondue là devant nous. Tiens, tu veux que je rajoute quelque chose sur l'histoire des bidons collés, Christophe? J'ai devant moi la décision du jury des commissaires par rapport à l'étape d'hier. C'est ce qu'on nous donne tous les matins au village départ. Et hier, il y a 3 directeurs sportifs qui ont donc enfreint l'article 12.1.040.37.1 pour action portant atteinte à l'image du cyclisme, entre parenthèses bidon collé. Donc c'est exactement ça. Et ça coûte 100 francs suisses au directeur sportif qui le fait. Par exemple, c'est arrivé à Nicolas Portal qui a aidé Peter Kinov, son coureur de la formation Sky, qui lui a eu une amende de 50 francs suisses. Donc ça marche comme ça sur la route du Tour, hein, pour les gens qui ne savent pas. Il y a des amendes, il y a des PV comme sur la route normale quand on enfreint le règlement, et les commissaires le font savoir à chaque fois le soir au coureur.
Mais il n'y a pas de PV pour les oreillettes, ça, on rappelle à la différence du simple.
On peut comprendre ces pénalités infligées aux coureurs et aux directeurs sportifs, surtout qui donnent des bidons en permettant une rétropoussette aux coureurs, parce que c'est vrai qu'il y a sur le bord de la route des gens qui ne comprennent pas, qui voient passer des coureurs accrochés à leur directeur sportif et parfois accrochés à la fenêtre de la voiture suiveuse. Ce n'est pas une bonne image pour le vélo, ça ne crédibilise pas le sport cycliste et l'effort du cycliste. Voilà, il y a plusieurs vices dans le vélo à bannir, et la rétropoussette en fait partie.
Donc toi, tu sanctionnerais là sur ce coup-là?
Alors, je pense pas que Jean-Christophe Perrault sera sanctionné, parce que quand on le voit aussi amoché que ça, on peut être tolérant. Mais quand les coureurs sont encore valides et que l'on évolue notamment à l'avant de la course, on le voit ça, les gars jouent la gagne et utilisent tous les stratagèmes pour économiser le plus d'énergie, alors que devant ils continuent de rouler. Il faut de l'équité, il faut de la tolérance aussi, tout cela n'est qu'une question d'interprétation.
Très bien, donc tour difficile pour Jean-Christophe Perrault, tour difficile pour Vincenzo Nibali et tour difficile également pour la caravane Cochonou depuis le départ de ce Tour de France. Raphaël Ostrich est le responsable de la communication de Cochonou sur Tour de France, est avec nous. Bonjour Raphaël.
Bonjour Christophe.
Raphaël qui nous fournit régulièrement en petit saucisson, donc franchement nous on est triste pour Cochonou. Mais que se passe-t-il? Mais qui vous en veut et comment ça se passe, Raphaël? Donc non, pour redevenir sérieux, la caravane Cochonou n'a pas pris le départ de plusieurs étapes car les agriculteurs font un peu obstacle à la caravane Cochonou, vous reprochant certaines choses. Comment on vit ça et est-ce que vous avez été menacé et comment ça se passe pour vous?
La caravane Cochonou et d'autres caravanes,
oui,
Carrefour par exemple.
Aussi, je crois.
Exactement. En fait, tout simplement, on a été privé de caravane 4 étapes, 3 étapes en Bretagne, plus une dans la première étape des Pyrénées. Il y a un contexte un petit peu compliqué aujourd'hui, voire même très compliqué. On entend le groupe Aost qui détient la marque Cochonou, entend tout à fait les revendications et le contexte particulier dans lequel se trouvent les agriculteurs, les éleveurs de porcs aujourd'hui. Néanmoins, on était très déçus de pas pouvoir être sur la caravane, puisqu'on est la caravane préférée du public. Il y a eu un sondage l'année dernière et c'est notre caravane avec les deux chevaux, les mini saucissons, les bobs, enfin tout ça est très attendu et le public était très déçu de pas pouvoir nous voir sur les bords de route. On a eu beaucoup de messages de soutien sur les réseaux sociaux, dans les médias. Il y avait vraiment une grosse surprise que ce soit notre caravane. Après effectivement, avec la caravane Carrefour, on a été bloqué 4 étapes.
Alors comment ça se manifestait? Les agriculteurs vous empêchaient de prendre le départ, ou c'est vous qui avez précédé ces manifestations en décidant de ne pas prendre le départ de la caravane le matin?
En Bretagne, c'est les autorités locales plus ASO et la marque qui ont décidé de ne pas partir. Il y avait effectivement des actions coup de poing prévues sur les bords de route, donc pour ne pas risquer que ce soit l'intégrité des personnes de la caravane ou des dégâts matériels avec les deux chevaux, tout simplement on n'a pas pris le départ. Après on a été un petit peu plus bloqué dans les Pyrénées à Tarbes au départ sur le parking caravane. Là il y avait des tracteurs et des jeunes agriculteurs qui manifestaient.
D'accord, tout est rentré dans l'ordre pour l'instant, mais ça, vous gérez la situation au jour le jour, hein. Ça dépend des...
Ouais, c'est un peu au jour le jour. On attend, là on est dans une période, enfin dans un passage dans l'Aveyron où c'est aussi un peu compliqué. Donc on espère que les négociations en cours entre la marque et les jeunes agriculteurs et les agriculteurs avanceront et nous permettront de faire passer. Aujourd'hui ça fait 3 étapes consécutives, donc on est plutôt très ravis, ouais, et très contents d'avoir repris.
Il va vous rester un peu de sauciflard sur les bras à la fin du tour, hein.
Bah, il nous en reste, vous en aurez tous sans problème pour la dernière semaine dans les Alpes.
Bon, évidemment les agriculteurs, les éleveurs, éleveurs connaissent une situation très difficile en ce moment. Tu le rappelais, Raphaël, et on est aussi avec eux. On entend leur revendications. Merci Raphaël, en tout cas.
De rien, merci à vous.
Il y avait d'ailleurs un très bon dossier dans le Parisien aujourd'hui. Justement, la transition est parfaite puisque Bertrand Métayer, notre confrère du Parisien aujourd'hui en France, est là pour parler des agriculteurs bretons. Bonjour Bertrand.
Oui, bonjour.
Non, c'est pas pour parler des agriculteurs bretons, évidemment. Avec la question du jour, Bertrand, on a eu un petit débat tout à l'heure autour du rôle des consultants qui se sont fait un peu houspiller par Chris Froome et par Nicolas Portal ce matin, qui en a mis une petite couche à Cyril Guimard. Alors, la question, c'est quel doit être le rôle des consultants? Est-ce qu'ils doivent la fermer finalement sur les routes du Tour? Je sais pas si tu as un avis là-dessus, mais c'est vrai qu'ils sont quand même régulièrement attaqués, en tous les cas depuis le début de ce Tour, depuis que Chris Froome a réalisé des performances incroyables. Bertrand, un petit mot là-dessus.
Les consultants sont attaqués comme les journalistes sont attaqués régulièrement. Les consultants... Et ça a l'air, coupez-moi la parole, n'hésitez pas. Non, mais effectivement, les consultants font leur travail. Effectivement, là, il y a eu beaucoup d'avis critiques, mais c'est aussi ça. C'est ce qui accompagnait le malaise général qu'on a pu ressentir tous dans la grande caravane, pas juste la caravane publicitaire, mais la grande caravane du Tour, hein, chez les journalistes, chez les équipes, chez certains directeurs sportifs, chez des coureurs qui, sous couvert d'anonymat, trouvent que parfois ça va un peu vite, un peu trop vite à leur goût. Donc les consultants. Eh ben, ils font leur travail, ça fait peut-être pas toujours plaisir. J'entends les arguments à gauche, à droite. Je ne suis incapable de trancher. Ouais. Je vais pas faire semblant. Je n'ai pas plus d'éléments. J'ai entendu la colère de Nicolas Portal. Mais j'ai l'impression que je l'ai entendu dans le football. Je me souviens.
Les anciens qui se faisaient critiquer par ceux qui étaient encore sur le terrain. Mais c'est vrai que
c'est Willy Sagnol qui avait lâché.
Exactement. Les anciens, fermez votre gueule, je crois.
Ta gueule l'ancien.
Célèbre ta gueule l'ancien.
Voilà. C'est l'éternel débat. Je sais pas ça pour vous.
Je crois qu'il y avait Desailly qui en était aussi sur ce coup-là. Sagnol et Desailly.
Cyril, à ton époque, il y avait pas de consultant quand tu étais coureur cycliste. Ou quand tu étais directeur sportif dans tes jeunes années, mais c'est vrai que les consultants ont pris une place prépondérante dans les médias sportifs. Aujourd'hui, comment tu le conçois ton rôle de consultant? Est-ce que tu as le droit de dire ce que tu veux, ou alors est-ce qu'il doit y avoir une certaine retenue parce qu'on fait partie du milieu, qu'on peut pas toujours tout dire ou dire des choses qui peuvent être négatives? Comment tu conçois ça?
Alors, effectivement, à mon époque, il n'y avait pas de consultant, ce qui n'empêche pas qu'il y avait de très bons journalistes.
C'est parce que les journalistes sont moins bons que les consultants, c'est ça? C'est ça que tu veux dire.
Non, vous aviez Pierre Chani qui analysait la course, vous aviez Robert Chapat, avant vous aviez Georges Briquet, enfin bon, il y a des noms dont on se souvient. Les consultants sont venus après. D'abord, ça n'a pas commencé dans le vélo, hein. Ça a commencé dans le football. Je crois que l'un des premiers, ça a été Larquet, Michel. Et puis après, ça s'est généralisé. Alors, non seulement ça s'est généralisé, mais la communication, c'est aussi considérablement développé, ne serait-ce qu'avec les réseaux sociaux, où là on voit aussi tout et n'importe quoi, faut pas avoir peur de le dire, et donc il faut jouer aussi un petit peu avec tout ça. Et on voit par exemple dans le cas de Nicolas Portal, qui d'un seul coup se fâche et me cite sur un certain nombre de choses, or des choses que je n'ai jamais dites, puisque c'est des sujets que je n'aborde pas. Je les aborde pas parce qu'ils sont trop complexes à expliquer. Mais d'un autre côté, vous avez aussi des consultants qui passent leur temps aussi à tout simplement passer la bosse à reluire parce qu'ils veulent être bien vus par les directeurs sportifs ou par les coureurs. Le consultant, c'est quelqu'un qui doit essayer de regarder les choses. Enfin, moi, c'est ce que j'essaye de faire, de donner son avis par rapport à un maximum d'objectivité, par rapport à mon expérience, par rapport à, entre guillemets, mes compétences. Mais je ne suis pas pour un coureur ou contre un autre. Quand je vois des attaques qui ressemblent à rien, eh bien, je le dis. Je dis pas « Ah, c'est formidable. Oh, il a au moins osé. » Non, j'ose dire. Moi, non, ça ne sert à rien. Si je vois quelqu'un qui fait un véritable exploit dans le sens de la course, oui, je vais le souligner. Mais moi, je veux rester libre de parole, libre libre de penser, mais je veux pas qu'on m'accuse de dire des choses que je n'ai jamais dites. Mmh. Et entre autres, concernant les watts, les fréquences cardiaques, vous n'avez pas un seul mot de moi sur ce sujet. Alors il faudrait que Nicolas aille podcaster tout ce que j'ai pu dire. Et en plus, quand je fais quand même de, quand je félicite ces coureurs, ou que je dis du bien et que je les défends, je suis désolé, ils m'appellent pas pour me dire bravo Cyril, t'es un mec sympa, quoi.
Bertrand, tu voulais ajouter quelque chose?
Non, mais c'est vrai que les consultants aujourd'hui ont vulgairement le cul entre deux chaises, parce que on vient les chercher parce que ce sont des experts pour décrypter voilà des situations que nous journalistes nous n'avons pas connues. Moi j'ai jamais été dans un peloton, je suis pas capable de d'expliquer de l'intérieur qu'est-ce qui se passe vraiment.
Mais tu as beaucoup d'autres qualités, Bertrand.
Oui certainement, mais voilà, le consultant il peut être soit...
Bertrand, je te coupe quelques instants. D'ailleurs, tu as été coupé parce que tu as le retour de Paris dans l'oreille. Tout de suite, Eric Salio, balle de 7 dans le match entre Tsonga et Murray.
Ouais, 5 jeux à 4 pour Andy Murray. C'est Joe Tsonga qui est au service. Et mauvais jeu de service du Français. 30-40, il se retrouve dans l'embarras face à l'Écossais qui, évidemment, a fait monter la foule. Beaucoup d'acclamations. Il a réclamé le soutien du public pour essayer de transformer, de convertir cette balle de 7. Première balle de service out, annoncée out. Joe se tâte. Est-ce qu'il demande le challenge? Non. Donc il va jouer cette deuxième balle de service. Attention, ça devient dangereux. Dommage parce que Joe avait formidablement bien débuté cette rencontre. C'est dans très peu de points sur sa mise en jeu. Mais là, eh bien, il a senti la pression à 5-4. Attention, Murray retourne dans le cours. C'est dangereux. Joe qui va peut-être... Oh là là, ça s'est sauvé. C'est sauvé, mais ça a tenu à rien puisque le coup droit de Tsonga semblait avoir pris Andy Murray. Mais Murray, dans un geste désespéré, avait remis la balle. Elle a accroché la bande. Donc 5-4, 40 à sursis pour les Bleus.
Sursis pour les Bleus, sursis pour Joe Wilfried Tsonga. On rappelle que la France mène 1-0 après la victoire de Gilles Simon tout à l'heure. Bertrand Métayer du Parisien, on t'a coupé. Donc le rôle des consultants, le cul entre deux chaises, comme tu disais tout à l'heure.
Oui, c'est-à-dire que soit on les accuse de faire partie du milieu et donc de cacher certaines choses, de ne rien dire. Et dans ce cas-là, le public peut dire, ouais, il est gentil, mais encore une fois, on ne nous dit pas tout. Si d'un autre côté il fait c'est un flot de choses insipides, ça sert à rien d'aller les chercher si c'est pour protéger les coureurs et voilà, et les coureurs peuvent se dire aussi il crache dans la soupe aujourd'hui, ouais, il vient nous critiquer alors que lui dans le passé qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il est, voilà, je comprends un peu les deux positions. Faut que tout le monde se calme. Après je pense que c'est l'excitation du tour, tout le monde monte aussi,
formidable
un petit
caisse de résonance du,
voilà,
du tour. Mais alors ce qui est étonnant aussi, c'est lorsque les coureurs cyclistes ou les sportifs de n'importe quelle discipline sont encore acteurs, sont encore sportifs de haut niveau, ils critiquent souvent les consultants, mais lorsque ils deviennent consultants par la suite, ils comprennent un peu les tenants, les aboutissants, et ils sont beaucoup moins critiques vis-à-vis des autres consultants. Fred, tu voulais...
Non, il y a toujours eu une différence de perception entre ceux qui font et ceux qui disent. Il y a ceux qui sont également, mais on pourrait rentrer dans ce long débat. Faut comprendre que ceux qui souffrent et qui travaillent toute l'année
bien sûr.
Mettre des tactiques et des entraînements et des méthodes au point, soient parfois écœurés par les propos de personnes qui restent assis dans leur studio. Les deux parties sont comprises ici.
Exactement. Cyril, oui.
Bon, en fait, ils sont d'accord pour tout écouter à partir du moment où on dit du bien d'eux.
Ah ben oui.
Pas seulement.
Calmons-nous.
Dans 40-50 ans, on n'est plus là. La vie est belle et la vie est un jeu.
Fred, notre humaniste. Merci Bertrand d'être venu dans notre studio.
Toujours un plaisir.
Voilà, pour les débats, la question du jour avec le Parisien aujourd'hui en France. Vous allez en parler demain de cette petite polémique?
Un petit peu.
J'ai croisé David Opocinski tout à l'heure en train de tendre son micro à Laurent Jalabert.
Effectivement, nous allons suivre aussi, mais nous allons faire d'autres choses, parler de la course et peut-être faire un petit portrait de Marion Rousse, qui est ses casquettes, qui a une triple vie, quadruple vie sur ce Tour de
France. Et qui sera avec nous demain dans ce studio. Tu vas peut-être la croiser d'ailleurs.
Avec grand plaisir.
Marion Rousse, la petite Falbala de l'équipe de RMC. Merci Bertrand. Allez, on revient à la course. Fred, rapidement un point. Nous sommes à 37 km de l'arrivée. Point rapide, puisqu'il y a dans quelques instants un point beaucoup plus long.
6 coureurs à l'avant de la course en direction de Rodez, à 37 km de l'arrivée. 3 Français, Gauthier, Géniez et Perrichon, qui voient revenir le peloton à leur trousse. 2 minutes 40 au dernier pointage.
La route du Tour, on y revient dans un instant en direction de Rodez, toujours sous de très fortes chaleurs. Georges nous parlait tout à l'heure de 40 degrés atteints sur la route du Tour. A tout de suite. Fred, 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 on va revenir, on me parle dans le micro. Fred, le point complet sur la course.
36 km 600 avec plus de 35 degrés sur la route du Tour aujourd'hui, sur les routes surchauffées donc de l'Aveyron, ce beau département de l'Aveyron, direction Rodez. Rodez, d'où est originaire un certain Alexandre Géniez, coureur de la FDJ. Alexandre Géniez, membre de l'échappée qui s'est dessiné dès le 6e kilomètre tout à l'heure à la sortie de Muret. Géniez qui a pris la roue de Cyril Gauthier, breton de l'équipe Europcar, à l'initiative donc de cette échappée. Alexandre Géniez pour la FDJ, Pierre-Luc Perrichon, le Bressan de l'équipe Bretagne Séchée, le Hollandais Wilco Kelderman, le Belge Thomas De Gendt et l'Australien Nathan Haas. Ces six-là font de la résistance à l'avant de la course. Le final de cette étape est particulièrement casse-pâte, de véritables montagnes russes, ça ne monte pas bien haut, mais il n'y a pas un mètre de plat en direction de Rodez, des routes que connaît par cœur Alexandre Géniez, qui a terminé 9e du dernier Tour d'Italie, lui qui était là pour être équipier de Thibaut Pinot. Allez, coup des franches aujourd'hui, le régional de l'étape. À l'avant du peloton, ce sont depuis une vingtaine de kilomètres les Tinkoff Saxo de Contador, mais surtout aujourd'hui de Peter Sagan qui roule et qui ramène le peloton à des proportions plutôt raisonnables. Rappelons la chute il y a une trentaine de kilomètres de Jean-Christophe Perrault qui est allé tâter sévèrement du bitume. Jean-Christophe Perrault, deuxième du dernier Tour de France, touché au coude droit, au coude gauche, à la hanche gauche, cuissard déchiré, qui a réussi à réintégrer le peloton, mais c'est définitivement un tour galère pour Jean-Christophe Perrault. 34 km de l'arrivée, 2 minutes 30 dernier pointage pour la tête de course.
Le final de cette 13e étape, c'est dans un instant sur RMC.
RMC Intégral Tour, Christophe Sessieux.
Nous sommes à 33 km de l'arrivée de cette 13e étape, 33 km de Rodez, toujours sous une chaleur accablante, à tel point que la moto RMC est en panne d'eau, en panne de bidon. Georges Quirino est en train de se dessécher, il faudrait pas non plus qu'il perde 3 litres, parce que là je sais pas comment on va le retrouver. Georges, raconte-nous un peu, mais que se passe-t-il? Personne ne vous donne de bidon aujourd'hui?
Mais si, t'inquiète pas. On va essayer de se rapprocher de la voiture FDJ de Thierry Bricot, qui est derrière Alexandre Géniez dans cette échappée. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Bon, vous êtes avec Alexandre Géniez dans cette échappée. Il est chez lui, il est de Rodez, on le voit un peu sur le bord de la route, il est très encouragé. Ça lui tenait à cœur d'être dans l'échappée aujourd'hui.
C'est vrai qu'il est énormément supporté, on voit que c'est le local. Il va passer à 10 km de l'arrivée, il va passer chez lui, donc évidemment qu'il était très motivé aujourd'hui. Bon voilà, maintenant on sait que ça va être compliqué d'aller au bout. Mais il y a un petit espoir encore.
Vous lui avez donné un bon de sortie ou aujourd'hui c'était pas possible de le retenir?
Pardon?
Vous lui avez donné un bon de sortie aujourd'hui ou c'était pas possible de le retenir? Là, il avait absolument envie
non,
de
non, non, aujourd'hui c'était lui ou un autre. Ce qu'on voulait c'était être devant, parce qu'on sait que c'est une échappée qui pouvait avoir des chances d'aller au bout, donc on voulait être représenté. Évidemment, ça tombe sur lui, c'est très très bien pour lui, parce qu'il est vraiment sur des routes qu'il connaît parfaitement et ça fera plaisir à ses supporters.
Est-ce que si le peloton revient, vous aurez une carte avec Arnaud Démare? Peut-être pour le final aujourd'hui?
Bah, éventuellement, je ne sais pas trop comment est Arnaud. Yvon, mon collègue, devait faire le point avec lui là dans la dernière heure de course. C'est vrai que c'est une arrivée groupée, c'est une arrivée qui paye qu'on vire, malgré qu'il y ait quand même beaucoup de pourcentage et que ça va être très compliqué.
Et puis un dernier mot Thierry sur Thibaut Pinot, qu'on a vu revivre, on va dire, hier peut-être. C'est un nouveau tour qui commence pour lui là, Thibaut.
Bah, évidemment qu'hier soir il était reboosté, ça lui a redonné confiance, même s'il n'avait pas complètement perdu, mais au moins il a vu qu'il avait des jambes pour pouvoir lutter avec les meilleurs, et il aura sûrement des bonnes sorties dans les Alpes.
Merci beaucoup Thierry Bricot, directeur sportif de la FDJ, qui suit Alexandre Géniez dans cette échappée. Des bidons Thierry. Non, il est parti, on peut pas avoir de bidons plein d'eau. Mais tu sais Christophe, il y a un bal assez marrant là dans le groupe de tête. C'est qu'il y a une moto fraîcheur qui habituellement est là pour donner des bidons aux coureurs. Et en fait depuis tout à l'heure, la moto fraîcheur ne fait que s'arrêter devant les motos son de nous et nos confrères des radios. Les motos photographes, les motos caméras, ils se font dépouillés de tous leurs bidons, et nous aussi on leur dépouille des bidons, parce qu'il fait 40 degrés et que avec nos bouteilles chaudes qu'on a récupérées au départ ce matin à Muret, on tient plus là, on veut pas boire du thé chaud. Hein,
c'est bon pour le thé, mais là évidemment les bidons sont un peu chauds. Il y a beaucoup de litres d'eau qui sont distribués par Vittel, qui est le fournisseur d'eau de ce Tour de France. On vient d'avoir les chiffres. 500 000 litres en tout distribués sur le Tour de France, dont 250 rien que pour les coureurs. Voilà.
Donc, oui, c'est beaucoup, mais c'est toujours pas assez pour remplir ta piscine personnelle à la maison.
Ah, mais une piscine à la Vitel, moi je veux bien. Ça fait classe quand même, ce serait classe. Mais bon, faudrait rajouter un peu de chlore parce que ça tournerait vite. Avec les températures, 31 km 600 de l'arrivée, Cyril, on se dirige vers un final intéressant sur cette étape. Ça sera compliqué pour les hommes de tête. Ils ont quand même encore une petite marche, 2 minutes. Est-ce que ça peut encore le faire pour eux ou alors ça va vraiment revenir de l'arrière?
Ah, je vais tuer le suspense.
Oui, mais t'adores ça.
Ben non, ils ont pratiquement aucune chance. Allez, on va dire une chance sur 100 de pouvoir y aller. Il reste 30 km, 2 minutes. Vous avez vu, il y a déjà deux équipes qui sont bien occupées à rouler derrière. L'équipe de Degen Kolb et puis l'équipe Tinkoff de Contador. Mais c'est surtout pour Peter Sagan que l'on travaille. C'est une belle arrivée pour lui. Un final où il peut tirer son épingle du jeu, peut-être beaucoup mieux que Greipel.
Ça va vite, hein, Fred, sur les routes du Tour aujourd'hui. Il y a certains coureurs qui sont retardés à l'arrière du peloton, qui n'arrivent pas à suivre le rythme imposé. Les chaleurs peut-être sont responsables de ces difficultés pour les coureurs. Et évidemment, la fatigue accumulée. On sort de 3 jours de Pyrénées quand même. Hein.
Oui, on atteint la fin de la deuxième semaine du Tour. Évidemment que les organismes payent l'addition. Même si c'est vrai que sur les deux dernières étapes de montagne. Alors c'est un peu paradoxal ce que je vais dire, mais les deux dernières étapes de montagne ont permis à beaucoup de coureurs dans le peloton de récupérer, contrairement aux 9 premiers jours dans la plaine entre Utrecht et la Bretagne, eh bien ils ont pu constituer un autobus et ne pas faire monter le cœur trop haut. C'est vrai qu'il y a eu un début d'étape le jour de la Pierre Saint-Martin à vitesse grand V qui a fatigué beaucoup de coureurs, mais hier et avant-hier, eh bien on a pu gérer son effort, rentrer dans les délais sans aucun problème. Il y a des coureurs qui se sentent mieux aujourd'hui qu'il y a 3 jours par exemple, après 6 ou 7 cols escaladés sur les 2 derniers jours.
Cyril, tu confirmes, c'est ça, pour certains ce sont des journées de repos, les journées en haute montagne, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce que tout le monde imagine.
Oui, c'est pour ceux qui ne sont ni blessés ni malades, hein. Les délais sont très importants.
40 minutes hier, par exemple.
40 minutes, ce qui fait que quand vous regardez les chiffres, on va peut-être parler de chiffres, 40 minutes, on a à peu près 40 minutes d'ascension, ça veut dire que dans l'école, vous pouvez perdre, grosso modo, 1 minute par kilomètre.
Donc ça veut dire confortable.
C'est très, très confortable. Après, vous faites les descentes à la vitesse de du peloton, et puis sur le plat vous tournez tout le monde, parce que dans les autobus il y a une solidarité puisqu'il faut rentrer, donc le soir vous êtes beaucoup moins fatigué que ceux qui ont fait la course à l'avant et vous êtes un petit peu régénéré.
Alors des nouvelles, Fred, tout de même de Jean-Christophe Perrault qu'on a vu chuter lourdement tout à l'heure. Il est ouvert sur le côté gauche, le coude, la cuisse, bien abîmé, bien esquinté, notre JC Perrault, mais il continue pour l'instant dans la course. Il s'accroche, il serre les dents. Hein.
Oui, il est en antépénultième position du peloton, avant-dernier. Jean-Christophe Perrault et son dossard 11, deuxième du Tour de France l'an passé, derrière Vincenzo Nibali, qui était ce matin à plus de 40 minutes de Christopher Froome au classement général et qui a chuté. C'est vrai, il y a une quarantaine de kilomètres. Jean-Christophe Perrault qui est bandé des deux côtés au niveau du coude, qui a le cuissard totalement déchiré. Et on voit sa hanche et sa cuisse gauche ensanglanté, un guerrier Jean-Christophe Perrault qui tout à l'heure, en rentrant dans les voitures, un peu aidé c'est vrai par ses directeurs sportifs, eh bien a pris le temps de mettre des bidons sous son propre maillot alors qu'il est meurtri dans sa chair. Il a pensé aux petits copains en ce jour de sécheresse. Il a remonté ce qu'il pouvait comme bidon pour aller ravitailler ses coéquipiers d'AG2R la mondiale.
Ce qui veut dire qu'il n'est pas touché musculairement ni au niveau articulaire, il a seulement bien roulé, bien frotté, parce que lorsqu'on est capable d'avoir ce type de réflexe, ça veut dire qu'on se sent bien, c'est-à-dire qu'on n'a pas de trauma.
Et qu'on
apparent dans l'immédiat.
Et qu'on est reconverti, c'est le cas pour Jean-Christophe Perrault aujourd'hui, en équipier modèle et qui bataille avec la douleur.
Messieurs, avant les informations de 17h et avant le final de l'étape, on rappelle qu'il reste 27 km 600 à parcourir. Petit détour par le Queens avec Eric Salio, Joe Wilfried Tsonga opposé à Andy Murray. Alors, où en est notre Joe national, Eric ?
On est toujours en fin de première manche. 6 jeux à 5 pour la Grande-Bretagne. C'est Joe qui est au service. Tout à l'heure, il a effacé une balle de 7. Et malheureusement, il y en a peut-être une deuxième qui va venir dans quelques secondes, puisqu'il y a 15-30 au tableau d'affichage. Joe est en difficulté. Il y a beaucoup de vent qui souffle en rafale. Et c'est dur pour les serveurs de se régler. Deuxième balle, elle est dedans. Oh, Joe est pris là. Oh là là, c'est pris. Mais là, sa balle reste miraculeusement dans le coup. Mais là, il est pris. Il est débordé. 15-40. Andy Murray exulte. Il incite le public à hurler. Et ça fait donc 15-40, donc deux balles de 7 à venir pour la Grande-Bretagne sur le service du français. Christophe, est-ce qu'on les suit, ou je sais pas quel est ton timing, mais là
il y a le feu dans les enfants dans cette première manche. On reste avec toi Eric, okay. pour les deux balles de 7.
Un 7 donc qui dure depuis 54 minutes. C'était vraiment le choc de poids lourd, hein, le contraste saisissant entre les vitesses des balles, entre ce deuxième simple et le premier, où tout à l'heure ça jouait un peu la balle et ça avait souri à Jessie. Bon, 15-40, première balle de 7, il est pris. Voilà Joe, il est pris. Il avait voulu faire service volé. Et le retour dans les pieds d'Andy Murray qui fait bouche. 1-7-0 pour la Grande-Bretagne, 7 jeux à 5.
Merci Eric. On rappelle que Gilles Simon a gagné tout à l'heure, donc un point à zéro pour l'équipe de France. Il est 16h56, on va se quitter, laisser passer les infos de 17h et revenir évidemment pour le final à 25 km de l'arrivée. Alors les échappés ou les sprinteurs ou les punchers dans la côte de Rodez, eh bien réponse dans quelques minutes sur RMC. À tout de suite.
RMC Intégral Tour.